Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Y aura-t-il guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne ? Donald Trump promet des annonces en fin de semaine sur la taxation des importations d'acier et d'aluminium. L'Union européenne fait tout pour dissuader Washington de mettre sa menace à exécution. Airbus va procéder à 3720 suppressions de postes en Europe à cause de la baisse des cadences de production de ses programmes A380 et A400M. 470 postes seront supprimés en France. Au Brésil, nouvelle opération des forces de sécurité dans une grande favela de Rio. L'argument est la lutte contre le crime organisé. Mais selon Amnesty International, ces interventions de l'armée brésilienne sont illégales. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel auditionne successivement TF1 et Canal+, dans l'espoir de les mettre d'accord. Les opérateurs refusent toujours de payer pour diffuser la chaîne. À menace et demie. La semaine dernière, Donald Trump annonçait son intention de taxer lourdement les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Et le président américain a réaffirmé ses intentions hier, accusant même l'Union européenne de ne pas avoir bien traité les États-Unis en matière commerciale. Ce matin, Bruxelles a contre-attaqué. La Commission européenne a fait les comptes. Elle ne veut pas subir un préjudice de 2,8 milliards d'euros. Elle prévient donc qu'elle pourrait à son tour taxer certains produits américains comme les jeans ou le jus d'orange. L'objectif, Pierre Benazet, est surtout de dissuader les États-Unis de passer à l'acte.
Oui, en tout cas, c'est encore l'espoir de la Commission européenne avec une double stratégie. D'un côté, les Européens montrent leurs muscles. De l'autre côté, ils espèrent encore convaincre. Pour ce qui est de montrer leurs muscles, les Européens adoptent une stratégie tirée de la dernière guerre de l'acier, 2002-2003, du temps de George W. Bush. Un épisode analogue de rehaussement des droits de douane que les États-Unis avaient fini par devoir annuler. Comme il y a 15 ans, les Européens avancent sur trois fronts, mesures de protection, juridique et de rétorsion. Pour les rétorsions, il s'agit de frapper des importations américaines pour compenser les pertes des exportateurs européens. On parle effectivement de jeans, de jus d'orange, comme vous venez de le dire, mais aussi d'Airel, de bourbon, de beurre de cacahuète ou de moto Harley-Davidson. Une liste à la Prévert en cours d'élaboration, mais certainement faite pour toucher particulièrement les États américains qui pourraient avoir envie de voter pour Donald Trump. Pour les mesures de protection, ce serait des droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour éviter de voir les marchés européens inondés de produits qui n'auraient plus d'entrée aux États-Unis. Et le volet juridique, ce serait le lancement d'une procédure devant l'Organisation mondiale du commerce pour essayer d'obtenir, comme il y a 15 ans, le retrait des mesures américaines. Reste à voir maintenant si cet étalage de contre-mesures sera à même de dissuader Donald Trump de mettre en œuvre des mesures dont l'UE juge qu'elles n'ont aucun rapport avec la sécurité, mais sont tout bonnement protectionnistes.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Pour la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, la menace de Donald Trump aura un impact redoutable sur la croissance mondiale si elle est mise à exécution. Le président américain devrait faire ses annonces en fin de semaine. Grégory Phillips, vous suivez ce dossier depuis Washington. Est-ce que les arguments européens peuvent porter? Est-ce que les Américains veulent vraiment la guerre commerciale?
Alors, en tout cas, le secrétaire au commerce Wilbur Ross assurait que non sur CNBC tout à l'heure. Il expliquait les États-Unis ne veulent pas de guerre commerciale et entendent conserver de bonnes relations avec leurs alliés. Alors, le ton est un peu plus conciliant. Il tranche avec celui utilisé hier par Trump pour évoquer les relations avec l'Union européenne. L'Union ne nous a pas bien traités et c'est une situation commerciale très, très injuste, a martelé le président américain lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre suédois. Alors, comme souvent avec cette administration, vous le voyez, il y a un peu deux niveaux de langage. Ce dont on est sûr, c'est que pour l'instant, Trump n'a pas encore signé les décrets qui doivent fixer cette taxation de 10% pour les importations d'aluminium et de 25% pour l'acier. Mais ça devrait être fait avant la fin de la semaine. C'est ce que nous a dit tout à l'heure la porte-parole de la Maison-Blanche. Et aux yeux de la Maison-Blanche, il y a urgence à prendre ces mesures car les chiffres du commerce extérieur des États-Unis pour le mois de janvier viennent tout juste d'être publiés. Ils ne sont pas bons avec plus de 56 milliards de dollars. Le déficit commercial atteint son plus haut niveau depuis 9 ans.
Grégory Phillips en direct de Washington. Airbus se voit contraint à ajuster ses effectifs, explique la direction de l'avionneur européen. Confronté à un creux d'activité pour son gros porteur, l'A380, et pour l'avion de transport militaire, l'A400M, Airbus a décidé de supprimer 3720 postes en Europe, dont 470 en France. Il n'est pas question de licenciement sec, précise la direction. Explication de Frédéric Bourgade à Toulouse.
Avec 450 suppressions d'emplois sur Toulouse, Saint-Nazaire et Nantes, la France est le pays le moins touché. L'Allemagne le plus impacté, avec environ 1900 emplois supprimés. Puis l'Espagne et l'Angleterre. Suppression d'emplois et non pas licenciement, car Airbus peut jouer sur le nombre d'intérimaires dans ses usines. Du coup, Jean Escourou de Force Ouvrière n'est pas vraiment inquiet.
Pour l'instant, on parle juste de suppression de postes, de transfert de charges, de transfert de personnel. Et comme on a une montée de cadence de la 320 et de la 350, il ne devrait pas y avoir de choc sur les postes supprimés en France. Dans un premier temps, la direction, bien sûr, elle va réduire le flex. Et le flex, c'est essentiellement les intérims et les sous-traitants.
Ce sont bien sûr les méventes de la 380, le gros porteur, et les déboires économiques de la 400 militaire qui expliquent la situation actuelle. Yonick Drenot, coordinateur Force Ouvrière.
À Toulouse, la 400M représente 1% de la charge de travail du site. Et la 380, 5%. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de reclassement relativement aisées. Non, ça ne nous inquiète pas parce que on sait aussi qu'on a un plan de charge sur 8-10 ans avec les augmentations de cadence sur la 350. Il y a déjà là un fort potentiel de reclassement.
Il faudra plusieurs semaines pour préciser comment concrètement les transferts vont s'opérer.
Une tentative de médiation est en cours pour tenter de mettre un terme au bras de fer opposant TF1 à Canal+ et aux fournisseurs d'accès à Internet. TF1 veut obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs. Canal+ a décidé de couper le signal de la chaîne pour ne pas avoir à payer. Le CSA a donc entrepris d'auditionner les protagonistes pour sortir de l'impasse. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
La situation est complexe puisque TF1 se rémunère avec la publicité, mais avec Internet, la chaîne est maintenant confrontée à une concurrence inédite. Bref, on est peut-être arrivé au bout d'un modèle. Alors, quelles sont les pistes pour le réinventer ?
Alors, effectivement, ce conflit montre que TF1 a bien compris qu'il lui fallait réinventer son modèle. La conclusion qu'il en a tirée, faire contribuer les opérateurs, peut paraître scandaleuse. Elle est en tout cas la marque d'une prise de conscience. Le web, comme vous l'avez dit, remet en cause le modèle économique de la télévision. Plusieurs rapports font d'ailleurs état d'une croissance du marché audiovisuel européen proche de zéro, voire une croissance négative dans les années à venir. Principal changement à l'œuvre, l'explosion des services à la demande, une demande télévisuelle qui s'individualise de plus en plus, alors que ces grands groupes comme TF1 résonnent toujours en segments très larges, moins de 25 ans, CSP+, ménagères de moins de 50 ans, etc. Pourtant, de plus en plus, chaque abonné, chaque téléspectateur souhaite un programme pratiquement sur mesure. Que faire pour un groupe comme TF1 dans cette perspective ? Continuer d'être en capacité de produire des contenus, car ces contenus restent l'élément moteur pour attirer les téléspectateurs. Or, pour être en capacité de payer la production des contenus, il faut de l'argent que TF1 réclame donc aux opérateurs. TF1 qui reste convaincu que la force de frappe reste à la télévision, vers laquelle les annonceurs reviendraient. Ça reste à vérifier. Autre piste, au Royaume-Uni, les chaînes de télévision se sont regroupées, par exemple, sous une plateforme, Freeview, qui propose via une seule interface toutes les offres de télévision disponibles. Autre solution possible, une intégration télévision-opérateur-télécom, la première devenant elle-même un opérateur, les seconds produisant eux-mêmes des contenus. C'est la stratégie adoptée notamment par Patrick Drahi et SFR. Enfin, la télévision pourrait aussi se replier uniquement sur la production de contenus et laisser à d'autres le soin de la diffusion. L'avenir dira quelle stratégie aura été la plus payante.
Anne-Laure Chouin, la CGT Cheminot présente ses contre proposition sur la réforme de la SNCF. Elle a rédigé un rapport qu'elle devrait remettre à Édouard Philippe dans les prochains jours. La Confédération syndicale donne ses solutions pour développer le modèle ferroviaire en France tout en conservant le statut des cheminots, Hakim Kasmi.
Oui Aurélie, des propositions évaluées à 13 milliards d'euros par an, soit 3 milliards de plus que l'aide annuelle de l'État, confirmée la semaine dernière par le Premier ministre Édouard Philippe. La CGT demande notamment au gouvernement de développer les modes alternatifs à la route comme le ferroviaire, afin qu'il atteigne 25% des moyens de transport, objectif fixé par l'État. Pour financer ces mesures, Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, compte sur la TIPP.
La taxe sur les produits pétroliers, que nous considérons être issue des transports et être potentiellement une taxe écologique, donc nous souhaitons que cette taxe, dans son intégralité, finance les infrastructures de transport et les politiques de report modal. Donc le ferroviaire, le routier, le fluvial, éventuellement l'aérien, et que tout ça permette, par exemple, d'apporter des ressources supplémentaires pour régénérer les voies au niveau ferroviaire.
Ces propositions interviennent alors que le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, vient d'annoncer aujourd'hui qu'il ne briguera pas de troisième mandat en 2020. Il pourrait bien être débarqué d'ici là en fonction de l'évolution du projet de loi. Le gouvernement doit présenter mercredi prochain son projet de loi sur la réforme du ferroviaire. Ce jour-là, l'intersyndicale doit se réunir afin de décider d'une journée de grève qui pourrait être reconductible. En attendant, les cheminots doivent manifester le 22 mars avec les fonctionnaires et les enseignants.
Hakim Kasmi, 3000 à 6000 personnes ont défilé sous la pluie dans les rues de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Une nouvelle journée île morte était organisée pour dénoncer l'insécurité sur l'île et les conditions de vie. Les barrages avaient été provisoirement levés pour permettre aux habitants de rejoindre la manifestation. Et le cortège rassemblait patrons, représentants syndicaux, élus et familles. Le reportage de Djamila Swadiki dans les rues de Mamoudzou.
La Marseillaise entonnait place de la République, un grand moment d'émotion et de partage et qui résonne comme une victoire pour les manifestants. Durant le parcours, ils ont chanté et dansé sous la pluie, des chants et des danses pour traduire leur colère et leur ras-le-bol.
De la joie et en même temps de la colère. Ça fait plaisir de voir les Mahorais réunis, mais aussi ça donne de la rage de voir qu'on nous attaque tous les jours sur les routes, en espérant que ça changera.
Tous les maux dont souffre Mayotte refont surface dans un cortège joyeux et multicolore.
Plus maintenant, il faut que l'État maintenant commence à réagir, parce que là, il y a beaucoup de sang là qui coule sur les routes. Les jeunes ne vont plus à l'école décemment, l'école est devenue une garderie. Il n'y a rien qui va ici à Mayotte. On dit que Mayotte coûte cher à l'État, mais Mayotte fait partie de la République. Les enfants de la République sont tous égaux. Donc il faut maintenant qu'on dote Mayotte de même dotation par rapport aux autres départements.
Sous la pluie portée par le combat contre l'insécurité, les Mahorais, par cette forte mobilisation, ont voulu signifier au gouvernement leur détresse.
Djamila Swadiki de Mayotte, la première. Une peine prononcée doit être une peine crédible et comprise, déclarait hier Emmanuel Macron. Dans le cadre de la réforme de la justice, il a présenté hier une réforme des peines, souhaitant notamment le développement des peines alternatives plutôt que l'incarcération pour les courtes peines. Dans ce contexte, le jugement rendu hier par le tribunal correctionnel de Roanne surprend d'autant plus. Une mère de 5 enfants a été condamnée à 18 mois de prison, dont un an ferme pour avoir giflé la maîtresse d'une de ses filles. Et elle a été incarcérée le soir même, Florence Thuram.
Oui, une condamnation, vous le disiez, qui a priori peut surprendre, voire choquer, d'autant que la prévenue, mère de famille de 5 enfants, n'avait jamais été condamnée par le passé, casier judiciaire vierge. Surprendre aussi parce qu'avant même les recommandations du président Emmanuel Macron, les textes de loi sont assez clairs, la prison doit rester l'exception. Mais à côté des textes, il y a toujours un contexte, et c'est visiblement ce qui a joué dans la décision du tribunal de prononcer cette peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l'audience. La jeune mère de famille est donc partie directement menottes au poignet pour la maison d'arrêt de la Talaudière, près de Saint-Étienne. Décision incompréhensible, martèle son avocat, qui estime que sa cliente, membre de la communauté rome, aurait eu besoin d'un interprète. Qu'il fallait, d'après lui, contenter la victime et satisfaire la fonction publique, car l'inspecteur d'académie était dans la salle. La justice n'a pas pour mission de contenter une victime, expose de son côté le parquet, mais de juger une personne et des faits. Le tribunal est d'ailleurs allé au-delà des réquisitions qui permettaient une peine aménageable, avec à la clé travail d'intérêt général ou placement sous bracelet électronique. Question de contexte, de comportement aussi, une institutrice frappée au visage devant les enfants, des parents et ses collègues, et une prévenue qui conteste les faits sans prendre conscience de leur gravité ni exprimer un quelconque regret. Parfois, note encore le procureur de Roanne, une décision judiciaire crée un émoi parce qu'elle entre en résonance avec une temporalité particulière. C'est sans doute le cas dans cette affaire, mais aussi l'occasion de rappeler que chaque dossier reste un cas unique devant une juridiction, elle aussi unique dans sa composition.
Merci pour ces explications, Florence Thuram. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos pour évoquer l'escalade de la violence en Syrie et l'échec de la trêve humanitaire. Pendant ce temps, le régime syrien déploie des renforts autour de la Ghouta orientale pour accentuer sa pression sur l'enclave rebelle. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 45 civils ont été tués aujourd'hui dans des raids. Au Brésil, l'État de Rio de Janeiro vit depuis la mi-février un état d'exception. C'est l'armée qui est en charge de sa sécurité. Et même si les militaires n'ont présenté aucun plan d'action, leurs opérations ont toutes eu lieu dans les favelas de la ville de Rio de Janeiro, comme aujourd'hui dans la zone ouest à Villa Kennedy. Les pratiques de l'armée sont loin de respecter l'état de droit, comme le dénonce Amnesty International. Le reportage d'Anne Vigna à Rio.
C'est la troisième opération de l'armée dans les favelas depuis que le président Michel Temer a confié aux militaires le contrôle des forces de police de l'état de Rio de Janeiro jusqu'à la fin de l'année. 900 hommes, accompagnés de blindés, ont passé au peigne fin ce mercredi la favela Villa Kennedy à la recherche de drogue et d'armes. Comme ce fut le cas dans d'autres favelas, les militaires ont également photographié et fiché les habitants présents au moment de l'opération. Des pratiques illégales pour Renata Neder, responsable d'Amnesty International au Brésil. Comme d'autres organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty a dénoncé les risques liés à la décision de Michel Temer.
D'abord, il faut dire que cette intervention militaire n'aurait jamais dû être approuvée par le Congrès. C'est vrai que Rio de Janeiro connaît une augmentation de la violence, mais la situation ne justifie pas une mesure aussi extrême qu'une intervention militaire. Donc nous sommes très inquiets à Amnesty International et on craint des violations très graves des droits de l'homme.
Officiellement, cette mesure inédite du président Temer a été prise face à l'augmentation de la violence à Rio. Mais 9 États du Brésil connaissent une insécurité encore plus critique que celle de Rio. D'autre part, la violence a empiré avec la faillite que connaît l'État de Rio depuis la fin des Jeux Olympiques en septembre 2016. Il manquerait actuellement 30 000 postes de policiers et l'armée a justement promis de déployer 30 000 soldats.
Anne Vignet, notre correspondante à Rio. À la veille de la journée de la femme, nous avons choisi de vous emmener en Inde, une société en grande majorité patriarcale où les filles sont généralement moins bien traitées que les garçons. Mais dans l'état du Meghalaya, dans le nord-est du pays, près de la Birmanie, la situation est très différente. Selon une tradition matrilinéaire, le nom de famille et les biens passent de la mère à ses filles. Et cela a un impact positif sur l'émancipation des femmes et le développement de la région où vivent environ 3 millions de personnes. Reportage sur place de notre correspondant Sébastien Farcy.
Lucetta Siem est une professeure pimpante de 56 ans qui enseigne dans une école de Shillong, la capitale de l'état du Meghalaya. Elle compte 3 frères et 2 sœurs et au moment de se partager l'héritage, la préférence a clairement été aux filles.
Nos biens familiaux ont été donnés par nos ancêtres à notre grand-mère, puis à ma mère et à ses 2 sœurs. Et ils ont encore été répartis entre mes 2 sœurs et moi. La maison familiale, elle revient à notre plus jeune sœur. Elles, les garçons, n'ont rien eu. Nous considérons qu'eux recevront uniquement une bonne éducation.
Cette tradition matrilinéaire prévaut dans le groupe ethnique des Khasi, majoritaire dans cet état des confins du nord-est de l'Inde, proche de la Birmanie et du Bangladesh. À la différence de ce qui est pratiqué dans le reste du pays, les enfants héritent du nom de leur mère. Ceci dans un but, pouvoir mieux tracer les descendances et s'assurer qu'il n'y aura pas d'union entre frères, sœurs ou cousins. La maison familiale est également attribuée à la plus jeune fille, qui ne devient pas toutefois propriétaire de plein droit, mais gardienne du bien. Elle devra ainsi y accueillir les membres du clan qui en ont besoin. Ces traditions font qu'à la différence du reste du pays, les femmes sont aussi bien traitées que les hommes, comme l'explique une autre femme de la région, Minimum Lalou.
Dans les autres sociétés indiennes, les gens sont très tristes quand ils ont une fille. Ils ne vont pas l'envoyer à l'école et vont la marier très jeune. Pour nous, c'est au contraire très important de mettre une fille au monde, car c'est la fille qui va s'occuper de tous les biens hérités. Il faut donc qu'elle soit bien éduquée et ne se marie pas trop jeune.
Cette préférence envers les femmes déstabilise cependant certains hommes, comme l'explique l'un d'entre eux, Loverwell Tan.
Beaucoup d'hommes pensent qu'ils reçoivent seulement une éducation et rien d'autre. Et une fois qu'ils se marient, ils partent avec leurs pantalons, leurs chemises et leurs vestes comme seule possession. Ils sentent ainsi qu'ils sont moins importants.
La société du Meghalaya est toutefois considérée comme patriarcale, entre autres car ce sont les hommes qui dominent la politique dans les villages ou l'assemblée régionale. Du reste, les oncles des héritières ont un rôle important, ils approuvent les mariages ou la vente de la maison familiale. Selon Sweetimon Rinia, chercheuse sur la culture Khasi, ce partage des rôles sous la tutelle des femmes est une manière de pacifier la société.
Les enfants sont libres de se marier avec qui ils veulent. Nous ne nous querellons jamais, nous ne faisons rien qui puisse créer de la haine ou de la division. Cela atténue les conflits dans la société et par ce système, même les hommes deviennent plus doux.
Le Meghalaya est de fait l'un des seuls états du nord-est de l'Inde à ne pas souffrir de conflits ethniques et il est également l'un des plus développés.
Et nous retournerons en Inde vendredi à 17h puisque le magazine de la rédaction sera consacré à la situation des musulmans dans le pays. C'est un Indien qui se voit attribuer cette année le prix Pritzker, surnommé le Nobel d'architecture. Ce prestigieux prix est décerné à Balkrishna Doshi. Ce disciple de Le Corbusier, âgé de 90 ans, a notamment réalisé un projet gigantesque, l'ensemble Aranya à Indore, dans l'état indien du Madhya Pradesh. Ses réalisations respectent la culture orientale tout en améliorant la qualité de vie en Inde, explique le jury. Balkrishna Doshi s'est engagé en faveur d'une architecture durable et des logements peu coûteux. Le temps sera pluvieux demain sur le nord de l'Hexagone. Des éclaircies vont se développer du nord de l'Aquitaine au centre-est. Température minimale moins 2 à plus 8 degrés du nord-est au sud-est. Les maximales atteindront 7 à 14 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.